Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Un projet d'accord a été trouvé entre le gouvernement et les syndicats sur les salaires des soignants. Infirmiers, aides-soignants, techniciens, brancardiers, ils pourraient être augmentés de 180 euros par mois. Les syndicats ont jusqu'à lundi pour signer.
D'un côté, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti se rend à Bobigny. De l'autre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reçoit les syndicats de policiers. Le gouvernement de Jean Castex se met en marche. Reportage et réaction à suivre.
La marine marchande bientôt à bout de nerfs. Les relèves d'équipage sont devenus un casse-tête à cause de la pandémie de Covid-19. 200 000 marins sont obligés de poursuivre leur travail en mer.
Le virus continue de se propager au Moyen-Orient. Les contaminations augmentent fortement, notamment en Iran, principal foyer de l'épidémie dans la région.
Les présidents mexicains et américains, dont les pays sont aussi très touchés, se sont rencontrés pour la première fois hier. Ils ont fait mine de s'entendre à merveille, compte rendu de notre correspondant.
Nous irons également en Turquie à la découverte d'un petit club de football en banlieue d'Istanbul qui a le soutien des puissants du pays.
Et juste après ce journal, le billet politique de Stéphane Robert, consacré ce matin à l'hyper-président ou comment Emmanuel Macron concentre tous les pouvoirs. Après une dizaine d'heures de négociations, un accord a été trouvé au Ségur de la Santé. Le petit nom donné aux grandes négociations sur les salaires des personnels hospitaliers. Bonjour Wafia Kenich.
Bonjour.
Le gouvernement propose une hausse de 180 euros par mois pour les paramédicaux et les non-médicaux.
Le marathon des négociations aura effectivement duré 9 heures et au bout de la nuit, 180 euros. Infirmières, aides-soignantes, administratifs, techniciens, cette augmentation est généralisée à tout le personnel de l'hôpital, paramédical ou non. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour les syndicats. L'une de leurs revendications était justement la généralisation de cette augmentation. Les modalités maintenant, une hausse de salaire en deux temps. D'abord, 90 euros au 1er septembre sur les fiches de paye et 90 euros à nouveau au 1er mars en 2021, dans 8 mois. On arrive bien donc à ce chiffre de 180 euros net. C'est beaucoup moins qu'espéraient les syndicats puisque l'objectif était d'obtenir 300 euros. Par ailleurs, ce que souhaitaient aussi les organisations syndicales, c'était de faire évoluer les grilles de salaire. Ce qui sera fait dans les années à venir, promet le gouvernement, par exemple, faire passer les aides-soignantes en catégorie B plutôt que C pour qu'elles puissent obtenir une meilleure évolution de carrière. Alors, c'est avec ce protocole d'une dizaine de pages que les organisations syndicales doivent aller consulter leur base pour ensuite donner une réponse au gouvernement d'ici lundi, une base qui attendait beaucoup plus. Ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour sauver des vies pendant cette crise du Covid qui n'est pas terminée. Pour certains, pas certain que cet accord leur convienne, d'autant que les collectifs mobilisés depuis un an autour de l'hôpital public n'ont pas participé à cet accord. Les médecins négociaient eux aussi avec le gouvernement. Ils ont d'ailleurs abandonné la discussion faute d'accord. Les internes étudiants en médecine sont sortis pour leur part avec un protocole.
Wafia Kenich. Autre chantier de taille pour le gouvernement, l'un des nombreux dossiers sur le bureau du nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, c'est le tribunal judiciaire de Bobigny, le deuxième de France qui est sur le point de craquer. Des travaux sont en cours pour l'agrandir mais n'avancent pas très vite. Le garde des Sceaux s'est rendu sur place en Seine-Saint-Denis accompagné du Premier ministre. Jean Castex veut accélérer les choses. Il assure que les modalités de fonctionnement du service public de la justice sont au cœur de ses priorités. Sur place, on reste prudent, le reportage d'Olivier Vogel.
Le tribunal de Bobigny craque de partout. Pas assez de salles d'audience, un dépôt surpeuplé, des files d'attente à l'entrée du bâtiment, un tribunal des enfants dans lequel il pleut. Mais cette fois, c'est sûr, l'État va y mettre les moyens. Cela permettra ici d'accélérer les travaux et l'extension. Bref, c'est un coup de turbo dans la justice que le Premier ministre a annoncé à l'issue de sa visite aux côtés du garde des Sceaux, Jean Castex.
La volonté de mon gouvernement est d'accélérer les moyens attribués à la justice. Il existe une loi de programmation votée par l'actuelle majorité. À compter de 2021, nous allons en accélérer la réalisation.
Oui, mais voilà, ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre vient dans ce tribunal pour annoncer que bientôt ça ira mieux. Alors, sur place, on préfère rester prudent. Sophie Combe est magistrate au tribunal judiciaire de Bobigny et déléguée du syndicat de la magistrature.
on a envie de lui dire chiche. Les promesses, on connaît tous l'adage, n'engage que ceux qui les écoutent. Nous, on les a entendues, on attend de les voir mises en musique. J'espère que ça ne sera pas une déception de plus.
Car en Seine-Saint-Denis, l'État est souvent à la traîne, se méfie Stéphane Troussel, le président du département qui assistait hier à la visite.
Le développement de ce territoire, il va plus vite que le développement de l'action publique. Donc il faut non seulement rattraper, mais il faut que l'État prenne la mesure de ce qui se passe ici. Chat échaudé craint l'eau froide. J'attends pour voir.
Hier, le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui accompagnait le Premier ministre au tribunal de Bobigny, avait bien oublié sa robe noire, plutôt discret à l'intérieur. Les micros n'auront pas enregistré le son de sa voix avant qu'il ne s'engouffre dans sa voiture de fonction.
Premier déplacement pour les uns, premier rendez-vous au ministère pour les autres. Gérald Darmanin, fraîchement nommé place Beauvau, a reçu hier soir tous les syndicats de policiers alors que son prédécesseur Christophe Castaner avait attendu un mois. Une façon de les rassurer sur son soutien au moment où les violences policières sont très discutées. Une prise de contact plutôt réussie à en croire les syndicats, satisfaits d'avoir rencontré celui qui est désormais ministre de l'Intérieur. Christophe Rouget est le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieur CFDT.
On a eu un accueil rapide du ministre de l'Intérieur qui tenait à nous voir pour nous dire que certes il n'était pas le premier flic de France mais qu'il était le premier d'entre nous et qu'il comptait faire bouger ce ministère et notamment améliorer le quotidien des policiers, c'était sa priorité. Ce ministère, il est dur à faire bouger. Gérard Collomb disait je n'arrive pas à appuyer sur les boutons pour que les choses changent au ministère de l'Intérieur. Nous lui avons dit, voilà, il faut que vous soyez en capacité de faire bouger ces choses parce que c'est un ministère qui a besoin de se renouveler, de se moderniser. Et donc nous attendons qu'il donne cette impulsion au ministère. Nous lui avons dit, notre maison, elle est en crise. Elle est en crise à cause des nombreux suicides, à cause des burn-out, à cause du nombre de blessés qui augmente en continu, à cause des agressions dont nos collègues sont victimes au quotidien. Donc il faut prendre en compte tout cela pour que demain, les policiers, ça il en a conscience, puissent dire à leurs enfants, puissent dire à leurs amis, puissent dire à tout le monde qu'ils sont policiers, fiers d'être policiers. Il a dit aussi que nous étions victimes de beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux, d'attaques dans la société, et qu'il serait le premier avocat des policiers pour défendre la beauté de notre métier au quotidien.
Christophe Rouget, il répondait à Florence Turme. Des rencontres bilatérales sont prévues d'ici à la fin du mois. Le défilé des partenaires sociaux continue. Cette fois, ça se passe à Matignon. Jean Castex recevra les syndicats aujourd'hui et demain, à commencer par Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT. Des consultations qui font office de prélude à la réouverture de dossiers sensibles comme les retraites et l'assurance chômage. Les salariés de l'enseigne La Halle, qui vend chaussures et vêtements, semblent en partie sauvés. Beau Manoir, propriétaire de Morgane, a été choisi hier par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre 366 magasins sur 830. Plus de 1000 emplois seront tout de même sacrifiés.
France Culture 8h07, Margot Delpierre, l'association française des capitaines de navires, craint une crise humanitaire dans la marine marchande.
Ces marins ont parfois l'impression d'être les oubliés de la crise sanitaire. La marine marchande, qui convoie 85% des biens échangés dans le monde, fonctionne normalement avec des relèves d'équipage. Mais la pandémie a contraint les marins à poursuivre leur travail en mer sans possibilité de relève. Ils sont 200 000 dans ce cas, estime l'Organisation Maritime Internationale, avec tout ce que cela implique, la fatigue, les risques de dépression et d'accident. Aujourd'hui, le ministère des Transports britannique organise à Londres un sommet international pour tenter de trouver des solutions, Marie Vienno.
Médicaments, denrées alimentaires, pétrole, gaz, le trafic de marchandises ne s'est jamais interrompu. Considérés comme travailleurs essentiels dès le début de la pandémie, les marins étaient censés pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen. Pierre Blanchard pilotait alors un navire chargé de 50 000 tonnes de gaz, sauf qu'en voulant débarquer là où il laissait son chargement, impossible.
La compagnie a essayé dans chaque port, en Espagne, au Portugal. Ils n'ont jamais réussi, il a fallu qu'on détourne le navire sur la France pour qu'on arrive à débarquer. Moi, j'ai débarqué sur la Gironde.
5 mois en mer, au lieu de 2, Pierre Blanchard ne se plaint pas. Mais il s'inquiète pour les marins qui avaient déjà travaillé 11 mois à la mi-mars, soit le maximum autorisé, et sont dorénavant à 15 mois. 15 mois de travail ininterrompu.
La situation s'aggrave de jour en jour. Les gens sont isolés, épuisés. On met en danger leur santé et la sécurité du transport maritime.
Sans possibilité de relève, les accidents menacent. L'Organisation Maritime Internationale le dit aussi. Mais le problème est inextricable, à la fois international et local.
Il va y avoir un préfet local qui va décider que non, dans sa ville, il n'y aura pas de marins qui viendront parce que les populations ont peur. Pour moi, le moyen le plus efficace, c'est d'essayer de faire de la pédagogie auprès des populations pour leur expliquer qu'un marin qui arrive de plus de 15 jours de mer, il n'est pas contaminé et que les gens, ils ont besoin du commerce maritime, sinon le pays s'arrêterait.
Le plus dur, poursuit ce capitaine qui doit bientôt repartir en mer, c'est l'impossibilité de donner une fin à ce confinement travail forcé et le silence qui entoure cette crise de la marine marchande.
C'est une crise humanitaire qui arrive. J'essaye de faire du bruit pour pas qu'on nous oublie et pour pas qu'on se dise, voilà, le coronavirus, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Et il y a des gens qui sont coincés et ils n'ont pas été confinés 2 mois, ils sont à 15 mois là. Et le mois prochain, ils seront à 16. Et il faut agir.
Un témoignage à retrouver en longueur sur notre site franceculture.fr. La Covid-19 a fait 32 morts de plus dans les hôpitaux français au cours des dernières 24 heures. Le bilan est désormais de 29 965 morts depuis le début de l'épidémie. Au Moyen-Orient, le bilan aussi est lourd. Et la situation, loin d'être sous contrôle, c'est notamment le cas en Iran. On fait le point avec Christian Chesneau.
La chaleur estivale n'a pas eu d'impact sur la propagation du virus au Moyen-Orient. Partout, les contaminations sont en hausse. L'Iran reste le principal foyer de l'épidémie de la région avec plus de 12 000 morts officiellement enregistrés. 9 des 31 provinces iraniennes sont classées en zone rouge. Dépassées, les autorités tentent d'imposer le port du masque dans l'administration, les transports en commun et les lieux couverts. Dans le golfe Persique, les monarchies pétrolières n'ont pas réussi à contenir la pandémie, même si le nombre de décès reste faible par rapport à d'autres régions du monde. L'Arabie Saoudite concentre plus de 200 000 contaminations, le Qatar plus de 100 000, les Émirats Arabes Unis et le Sultanat d'Oman plus de 50 000, essentiellement chez les travailleurs immigrés originaires d'Asie. En Israël, l'épidémie reste vivace. Certains responsables de la santé pointent du doigt un déconfinement trop rapide. Du coup, les autorités israéliennes ont réimposé de nouvelles restrictions. Les bars et les salles de sport vont de nouveau fermer. En Palestine, la Cisjordanie est confinée jusqu'à dimanche prochain, là encore à cause d'une nouvelle augmentation des contaminations.
Augmentation également au Mexique avec un nouveau record d'infection dû au coronavirus. Près de 7000 cas ont été répertoriés en une journée. Le nombre de morts dépasse les 32 000. Le président mexicain était hier en visite aux États-Unis. Andrés Manuel López Obrador a rencontré son homologue Donald Trump. Au menu des discussions, pas de Covid-19, mais la signature d'un nouvel accord commercial qui lie leurs deux pays ainsi que le Canada. À Washington, Grégory Phillips.
L'accueil dans la roseraie de la Maison-Blanche est chaleureux. Oubliez les déclarations outrancières du candidat Trump qui en 2016 affirmait
«
Les Mexicains sont des trafiquants de drogue, des criminels, des violeurs. Quelques-uns sont des gens bien. » Et toujours pendant la campagne, « On va construire le mur. Et au fait, c'est le Mexique qui va payer. » Mais hier soir à la Maison-Blanche, Trump n'était qu'amabilité, vantant ce nouvel accord commercial entre Canada, Mexique et États-Unis qui a remplacé, je cite, « l'horrible ALENA », vantant aussi les qualités de la communauté mexicaine. 36 millions de citoyens mexicains vivent aux États-Unis. Ils travaillent très dur, ce sont de grands hommes et femmes d'affaires. Ils détiennent une grosse part de nos petits commerces avec beaucoup de succès. Ils sont comme vous, Monsieur le Président, de bons négociateurs et très bons en affaires. Les deux dirigeants se félicitent aussi de la coopération entre les deux pays pour freiner les trafics en tout genre à la frontière. Quant au mur voulu par Donald Trump, et dont le président américain jure qu'il a arrêté le Covid, il n'a été construit pour l'instant que sur 322 kilomètres, le long d'une frontière qui en fait plus de 3000.
Quitte à détériorer sa relation avec Pékin, l'Australie annonce la suspension de son accord d'extradition avec Hong Kong. Le pays compte aussi prolonger de 5 ans de nombreux visas de Hongkongais. Des milliers se verront offrir le titre de résident permanent. La loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine sur le territoire a motivé ses décisions, a expliqué le Premier ministre australien. Un texte qui vise à réprimer la subversion et la collusion avec les forces étrangères et que redoutent les militants pro-démocratie. D'un petit club de foot de la banlieue d'Istanbul, il est devenu le roi de la compétition. Le club de Başakşehir domine le championnat turc qui touche à sa fin, des victoires auxquelles il n'est pourtant pas habitué. En réalité, il doit beaucoup au président du pays, Recep Tayyip Erdogan. Explication de Franck Madvon.
Juillet 2014, un attaquant sexagénaire signe un triplé en match exhibition pour l'inauguration du stade de Başakşehir. Ce joueur s'appelle Recep Tayyip Erdogan. Ce soir-là, les défenseurs laissent un boulevard au Premier ministre de Turquie qui sera élu président le mois suivant. Il faut dire qu'Erdogan, ancien bon footballeur, est ici chez lui. Başak Chehir vient d'être racheté par des sympathisants de son parti, l'AKP, et le club est présidé par le mari de la nièce d'Erdogan.
Quand il y a eu la présentation officielle du nouveau stade et de l'équipe, on voyait déjà qu'il avait un certain poids.
Le joueur français Jérémy Perbet a passé une saison à Başak Chehir.
Ça s'apparentait plus à des matchs amicaux. La particularité, c'est qu'on jouait vraiment devant 100 personnes.
Başak Chehir, un club sans supporters, mais avec de l'argent. Il est en tête aujourd'hui du championnat à 3 journées de la fin et toujours en course en Ligue Europa. Dorothée Schmidt est directrice du programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI.
Pendant très longtemps, Erdogan, fan du Fenerbahçe, était soupçonné par ses opposants de vouloir s'approprier le club de Fenerbahçe. Promouvoir Istanbul Başak Chehir, c'est l'alternative. On a une nouvelle histoire du foot qui se passe, c'est le club de Tayyip.
Tayyip Erdogan pourrait donc tirer profit d'un titre de Başak Chehir, ce club sans passé qui rivalise aujourd'hui avec les géants du football turc.
Franck Madvon, la météo de ce 9 juillet, il fera très beau et chaud, sauf dans le nord-ouest. On attend de la pluie de Lille à Brest. Dans cette zone, on ne dépassera pas les 18-20 degrés. Comptez sinon 31 cet après-midi à Paris et Strasbourg, 32 à Bordeaux et 35 degrés à Lyon.